Bonsoir. Soyez les bienvenus à cette seconde séance du cycle « Le multiculturalisme en question, compliqué l'universel ». Nous avons le grand plaisir ce soir de retrouver Barbara Cassin et d'accueillir Florence Dupont pour ce dialogue qui est sous le signe de la Grèce et de Rome et des multiculturalismes à l'antique. Donc, nous les remercions l'une et l'autre, et je leur cède volontiers la parole.
Merci. Merci à vous de nous accueillir. La première séance était une séance consacrée à un déplacement dans l'espace. Avec Vinciane Després, donc anthropologue, nous avons essayé de voir ce que pouvait vouloir dire autre dans autre culture, et même ce que pouvait vouloir dire culture. Et au fond, ce que je crois nous avons surtout retenu, ou ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait se déplacer avec grande précaution, non pas en avion, mais en petit train, pour passer derrière les arrière-cours des maisons et pour voir comment on déployait des barbecues, par exemple. Et donc, avec quel type de précaution il faut aborder, quel type de lenteur il faut aborder un déplacement de notre universel, logé là où on ne l'attend pas. À présent, avec Florence Dupont, nous allons nous déplacer dans le temps. Non pas éprouver l'espace, mais éprouver le temps et voir comment, au fond, multiculturalisme n'a peut-être aucun sens à l'antique, même avec un S, et tenter de comprendre comment, à partir de la Grèce et de Rome, on peut compliquer notre idée de l'universel. Alors, je rappelle très, très brièvement la manière dont j'avais essayé de proposer les choses à partir de la Grèce la dernière fois. La Grèce, au fond, est susceptible d'une double appréhension. Ou bien elle est, on peut la comprendre comme déjà en elle-même multiple, une pluralité de cités, de cultures, politéiaï, différentes et rien de plus différent d'Athènes que Sparte, en un sens. Ou bien on peut réfléchir à la Grèce comme un universel, l'homme est un animal doué de logos, dit Aristote, donc un universel, mais pas n'importe lequel, un universel déjà approprié à une certaine culture, à un certain type de culture. Par exemple, la culture du logos, hellénizein, être grec, être cultivé, être un homme, c'est-à-dire parler comme moi, par différence avec ces barbares qui ne sont pas vraiment des hommes et qui en tout cas ne parlent pas comme moi. Donc un étrange et un complexe rapport entre unité et pluralité. Le latin vient, Rome vient après pour nous. Après la Grèce, ou en tout cas avec cette possibilité de faire deux. Avec Rome, au moins deux langues, le grec et le latin, d'emblée multiples. Berman dit « c'est un peuple de traducteurs ». Tout ça, nous avons des idées reçues qu'il va falloir secouer. Et il va falloir secouer ce que peut vouloir dire multiculturalisme, ce que peut vouloir dire universel quand on le prend d'un point de vue romain. Comment ça se dit en latin, en grec? Est-ce que ça a le même sens? Est-ce que ça a même le moindre sens? Alors, je fais toute confiance à Florence Dupont pour secouer nos universels trop rapides et pour nous réveiller de ce qui peut rester de sommeil dogmatique, pour faire le point de ce rapport passé-présent. Je présente Florence Dupont d'un mot, pour autant qu'elle en ait besoin. Elle est professeure de latin à Paris Diderot, membre associé de d'Anima,
du centre Anima, oui.
Du centre Anima avec un N-I-H-M-A, qui, alors je ne sais pas ce que recouvre ce sigle, tu peux nous le dire, Florence.
Anima.
Non, si tu ne sais pas, ce n'est pas grave, c'est l'ancien centre Gernet.
Oui, c'est anthropologie et histoire
des mondes antiques.
Voilà.
Et puis, elle est directrice de programme, elle a été directrice de programme au Collège international de philosophie. Et alors, elle dirige, mais je ne sais pas si c'est toujours le cas, le groupe de recherche en ethnopoétique.
Non, je ne dirige plus du tout. C'est quelqu'un d'autre qui m'a très honoré, qui m'a même succédé. Hein. Mais bon, je me suis intéressée à l'ethnopoétique, mais maintenant, ça n'est plus moi. On ne peut pas tout faire.
Oui, mais enfin, bon, ethnopoétique, c'est un terme que je verse au dossier.
D'accord, merci.
les nombreux livres de Florence Dupont nous secouent. Homère et Dallas, Introduction à une critique anthropologique. C'était en 91 et une réédition en 2005. Sénèque, Les monstres de Sénèque, par exemple, en 95. Et bon, plus récemment, en 2003, L'acteur roi, le théâtre à Rome. Façon de parler grec à Rome, un livre absolument passionnant, un collectif absolument passionnant. Aristote ou le vampire du théâtre occidental, chez Aubier, en 2007. Et un livre beaucoup plus récent qui m'a infiniment appris et apporté, Rome, la ville sans origine, chez Gallimard, en 2011. Florence a traduit Sénèque et mis en scène, enfin, ou participé.
Non, je n'ai pas mis en scène.
Tu as participé.
Pas... Non, je n'ai jamais participé.
Bon, alors, elle a seulement traduit. Mais cette traduction impose un certain type de regard sur le théâtre. Et elle a traduit donc Sénèque, Plaute. Et voilà, je lui cède la parole.
Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas besoin de faire d'introduction. Et je vais directement commencer par ce que Barbara Cassin vient d'appeler les précautions. En effet, je crois qu'il faut prendre des précautions lorsqu'on va utiliser cette problématique sur le multiculturalisme pour mieux comprendre l'Antiquité et inversement. Donc, première précaution, et c'est celle, évidemment, de la traduction. Alors, commençons donc, puisqu'il s'agit de compliquer l'universel, de se demander qu'est-ce qu'on va trouver, est-ce qu'on va pouvoir retrouver une pensée de l'universel dans l'Antiquité. Alors, contrairement à ce que d'aucuns pensent ou ont pensé, moi, je crois que pas du tout. Et en effet, on pourrait chercher en vain un discours sur l'homme en général, ou la nature humaine, ou l'humain, comme essence indépendante des humains singuliers. Évidemment, je vais vous le montrer, mais bon, je crois que c'est important. C'est-à-dire que bon, ce sens de humain que l'on a dans Human Rights, ou dans Droits de l'homme, c'est-à-dire un homme sans condition. Et je commence par l'exemple le plus visible, hein, c'est Rome. En effet, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas énoncer un universel abstrait à Rome? Tout simplement parce que la langue latine, à la différence du grec, interdit de créer des substantifs à partir d'adjectifs ou de participes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par la langue, conceptualiser l'essence d'une qualité sans attribuer cette qualité. Alors, ainsi, bon, je vous donne l'exemple tout de suite, de universi, hein, qui veut dire tout, ce qui est un pronom et un adjectif, hein, renvoie nécessairement à un groupe précédemment cité. Hein. Par exemple, si on a parlé des soldats, on dira milites universi, c'est-à-dire tous les soldats dont on vient de parler pris dans leur ensemble. L'universus ou universi, c'est toujours un rassemblement de choses, de gens qui existent, prises dans leur contingence et jamais dans leur sens. Bon, alors, évidemment, ça nous change beaucoup. Hein. Alors, d'où, et je voudrais tout de suite donner un exemple des effets de cette constatation, hein, tout le monde connaît un vers de Terence. Je n'ai pas la possibilité de l'écrire, ni quoi que ce soit. Mais tout le monde le connaît, je vais le rappeler, puis je vais le prendre par petits bouts. 1, qui est un vers de Terence qui, dont on fait une sorte de maxime de l'humanisme, hein, et qui est en latin « homo sum hein, »« humani nil ame alienum puto ». Alors vous voyez, déjà, même si vous ne savez pas un mot de latin, vous avez un vers qui est en deux parties. Et entre les deux, donc « homo sum », et puis ensuite « humani nil ame alienum puto ». Et entre les deux, donc vous avez deux verbes, vous avez « sum » et « puto hein, », et entre les deux, il n'y a rien. Il y a une asyndète, ce qui veut dire en latin automatiquement un mais. Alors je vous le dis tout de suite parce que c'est très important. Un mais, c'est-à-dire que les deux membres du vers sont opposés. Alors que veut dire ce vers? Alors je vous donne tout de suite la traduction habituelle. Homo sum, je suis un être humain. Et ensuite, on oublie complètement qu'il y a une opposition et on dit, avec sous-entendu comme, qui est formé et d'ailleurs, ce qui est quand même, bon, pour un latiniste, c'est affreux. Remplacer une asyndète par un et, c'est un contresens grave. Et je considère, plutôt, ni l'humani que rien d'humain, ame alienum, ne m'est étranger. Alors, tout ça est, donc, c'est un contresens absolu, hein, pour la bonne raison que, un, la syndète, donc il y a une opposition, et tel que c'est traduit, il n'y a pas d'opposition. Ensuite, le mot homo, qu'on a traduit par je suis un homme ou un être humain, ne signifie pas du tout ce que ça donne en français, c'est-à-dire je suis. Comme tout le monde, j'appartiens à cette grande collectivité des hommes. Pas du tout. Homo en latin signifie n'importe qui. Ça veut dire c'est quelqu'un dont on est incapable de préciser l'identité. Et généralement, ça a une valeur péjorative. C'est le pauvre type, c'est n'importe qui, c'est n'importe quoi. Hein? Bon, alors, c'est un pas grand-chose, un pauvre mec. Voilà. Ça, c'est homo sum. Bon. C'est pour ça que ça a donné en français on. Alors, et ensuite, humanus. L'adjectif humanus, hein, d'abord, n'a pas du tout de rapport étymologique avec homo, ça ne vient pas du tout d'homo. Et ensuite, humanus ou humanitas en latin ne veut pas dire humain au sens de cette abstraction de ce qui caractériserait les hommes en général. Ça veut dire gentil, bien élevé, poli. C'est tout ce que ça veut dire. Ce qui est un des sens de humain d'ailleurs aujourd'hui. Donc en fait, la phrase veut dire, hein, je suis un pas grand-chose, un pauvre type, mais, question bonne manière, hein, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Alors, c'est parfait parce que vous riez, mais c'est exactement ce qu'il faut faire, car c'est le verbe, c'est une réplique de comédie, tout au début de la comédie, et les premières scènes de comédie ont pour fonction de mettre le public dans une atmosphère joyeuse. Voilà. Donc, mais peut-être que les traducteurs auraient dû se demander comment ça se faisait que tout au début d'une comédie, hein, tout d'un coup, il y a un type qui déclare cette chose profonde et sentencieuse qui, ne fait pas rigoler particulièrement. Alors, donc, voilà. En fait, c'est un vieillard de comédie, hein, qui s'adresse à son voisin, et le voisin est un type très hargneux et replié sur lui-même, et qui ne veut pas qu'on lui adresse un mot. Voilà, c'est tout. Et voilà. Alors, donc en fait, on a cette scène un peu bizarre où moi je vois un peu un clochard qui fait le baise-main. Vous voyez, c'est une espèce de conflit entre le pauvre mec, mais qui dit oui, bon, je suis peut-être n'importe qui, mais bon, tu vas pas me donner des leçons de bonne éducation. Voilà. Alors, donc vous voyez comment ça se passe, hein, les problèmes de traduction et de glissement. Donc, j'ai pris ça, cette phrase, qui ne veut pas dire que, contextualisée autrement, elle n'a pas pu servir, et dans l'Antiquité, d'avoir un autre sens. Mais voilà. Alors, donc, je donne cet exemple. Maintenant, passons au grec. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, mais ça, c'est des romans. Est-ce qu'on n'a pas un homme abstrait et universel qui existerait comme catégorie? Alors, on peut me donner tout de suite cet exemple. Il y a un terme qui désignerait tous les hommes comme dans leur opposition aux dieux. Vous savez, quand on trouve dans ces traductions les mortels, hein, en grec, brotoi. Alors, donc, on aurait comme ça une essence de l'homme qui serait affirmée par sa mortalité. Mais ce n'est pas vrai. En effet, d'abord parce que les discours sur les mortels ne concernent que ceux qui rendent un culte aux dieux, qui sont dans leur relation aux dieux. Mais en fait, donc les hommes n'existent dans leur spécificité que par rapport aux dieux. Mais est-ce qu'il y a une opposition entre les hommes et les dieux? Mais pas du tout. En effet, le fait de ne pas être, j'allais dire, la non-divinité, le fait de ne pas être divin, n'est pas constitutif de l'essence d'un homme. En effet, les monarques grecs se faisaient rendre des hommages divins, et les philosophes eux-mêmes s'appelaient théos divin. Commencez par Épicure, qui était lui-même un homme divin. Je sais que ça peut choquer, qu'ils pensent qu'Épicure était matérialiste, etc. Mais bon, ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. Alors, donc en fait, et si on revient à Rome, on voit bien que l'opposition homme-dieu, elle est très peu active. Hein, elle n'est que, c'est juste dans un passage, on va opposer un homme et un dieu dans un discours, mais ça ne revient pas à une naissance. En effet, les hommes et les dieux sont placés dans une hiérarchie continue. Hein, et leur place est désignée donc comme, dans cette hiérarchie du monde par un terme qui est leur dignitas, leur rang. Et entre les hommes et les dieux, vous savez peut-être que il y avait de la place pour des empereurs divinisés après leur mort. Hein. Donc en fait, il y a un continuum. Pourquoi tout ce discours, hein, c'est pour dire qu'en fait, que les anciens ne conçoivent pas les groupes humains, chaque groupe humain, hein, chaque nation, chaque cité, comme la réalisation particulière qu'on appellerait la culture, d'une essence commune, qui serait l'objet de discours, de définitions, d'enquêtes. En fait, il n'y a d'hommes qu'en relation, hein, entre eux ou avec les dieux, etc. Hein, et on pourrait vainement chercher quelque chose sur l'essence de l'homme. Alors, tout ça, c'était un préambule un peu long, mais nécessaire, sinon on serait obligé d'y revenir. Ce préambule ouvre directement donc sur la question du multiculturalisme. Il est clair qu'on ne va pas pouvoir penser la culture, hein, comme une forme particulière de l'humanité, à chaque fois. Alors, parce qu'il n'y a pas d'humanité. Alors, cela dit, puisqu'on est dans les problèmes de traduction, la notion même de culture, elle est complètement absente, hein, et du grec et du latin. Enfin, peut-être. En fait, on va avoir des mots qui soient son taille trop large ou taille trop court. Je m'explique. Si on voulait traduire le terme culture en grec au sens de culture d'une collectivité, hein, le mot, à mon avis, enfin, j'ai fait un peu une enquête autour de moi, parce que qui serait le plus proche, ça serait soit bios, qui signifie un genre de vie, mais c'est un peu insuffisant, hein, ou politeia. Hein. Alors, politeia, parce que ça, ça englobe à la fois, pour chaque cité, ce qu'on appelle la constitution, hein, mais aussi la façon de manger, d'élever les enfants, etc., de se vêtir et tout ça. Bon, vous voyez, là, ça taille un peu large. Bon. À Rome, alors là, c'est encore pire. Vita peut servir, comme bios, hein, mais il n'y a aucun dérivé en relation avec kiwitas, qui donnerait l'équivalent de politeia. Le terme latin kiwitas désigne uniquement tout ce qui est les iura, hein, et les ges, c'est-à-dire tout ce qui est les institutions politiques et judiciaires, mais pas du tout les façons de vivre. Si on va, si on cherche les façons de vivre, on aura mores ou zous, hein, mais qui ne sont des choses qui sont pas forcément spécifiques d'une collectivité. Donc là, on va avoir justement cette opposition, peut-être temporaire, mais entre les cités grecques et Rome, dont parlait Barbara à l'instant, c'est-à-dire que du côté grec, chaque cité cultive sa différence, hein, par une politeia qui va englober toute la vie des citoyens. Mais je dis bien cultive sa différence, c'est-à-dire qu'elle se fabrique, cette politeia. Quand une nouvelle cité est fondée, c'est-à-dire une colonie, elle va s'inventer des différences. C'est-à-dire qu'elle va apprendre souvent la politeia de sa cité d'origine, et puis elle va faire quelques innovations. Hein, c'est comme ça, Marseille. Voilà. Et elle va après... Oui, puisque c'est une cité phocéenne, mais qui après... Bon, voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que je cultive leur différence. C'est une différence qui est créé. Alors ça, c'est pas du tout le cas de Rome. Hein, donc on va voir qu'elle ne cultive pas du tout sa différence. Cela dit, donc en fait, puisqu'il n'y a pas de culture au sens moderne, est-ce que je vais arrêter là, je vais dire non, multiculturalisme, on ne va pas en parler. Pas du tout, évidemment. Un dispositif peut exister, qu'on puisse parler en termes contemporains. qui n'a pas reçu de dénomination parce que c'était pas intéressant d'en parler dans l'Antiquité, mais qui serait présent et dont on pourrait parler. Alors, la question donc va être posée. Qu'en est-il quand on a affaire à l'Antiquité de ce que nous appelons le multiculturalisme? Alors pourquoi? Alors on va aller comme ça un peu en tâtonnant à l'intuition, mais pourquoi pas, hein. Par exemple, voilà, par exemple, comme ça, a priori, il semble que le problème soit intéressant pour Rome. En effet, comme vous savez, si on regarde de l'extérieur, Rome, hein, l'Empire romain, disons en particulier, bon, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, l'Imperium Romanum, et ensuite tout ce qui va suivre, hein, bon, on a l'Imperium Romanum, qui d'ailleurs est entre nous absolument intraduisible. Hein, bon. L'espace politique dépendant de la cité de Rome. Vous voyez comme c'est pratique. Alors, bon, s'étend, comme vous savez, va s'étendre assez vite, de l'Espagne au Moyen-Orient, de la Germanie au Sahara. Hein. Et donc, on peut se demander comment cohabiter... Alors, je veux dire, on pourrait se demander comment, je n'ai pas dit que ça existait, cohabiter des communautés. On pourrait penser qu'il y a des communautés grecques, gauloises, juives, et que, donc, on aurait une société... peut-être, alors, est-ce une société multiculturelle, etc., etc. Bon, alors, voici, je pense que ça vaut la peine de poser la question. Alors, déjà, alors, bon, communauté. On se dit, voilà, il y a des communautés. Alors, on pense à partir de nous, on fait le va-et-vient, c'est ça qui est intéressant, entre ce que nous vivons et ce qu'on peut voir à Rome. Alors, communauté, alors j'ai dit communauté grecque, gauloise, juive, mais vous savez qu'aujourd'hui, hein, on prétend que les Français, la France, les Français formeraient une communauté, en tout cas, les Français de souche. Rien qu'à dire ça, j'ai le sentiment que bon, c'est n'importe quoi. Mais bon, enfin, en tout cas, alors, disons que laissons les Français de côté, hein. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut définir une identité nationale qui serait différente de celle des communautés présentes. Alors, donc, on va faire comme si ça avait un sens et on va se demander, c'est quoi l'identité des Romains de souche? Bon, Romains de souche. Alors, donc, ben oui, pourquoi pas? Alors, non mais vous riez, mais vous savez qu'il y a des livres qui en parlent quand même. Alors, donc, est-ce qu'il y a une identité? Alors, on vous dit, oui, ils ont une identité latine. D'ailleurs, très souvent, et c'est... Je grogne, parce qu'on parle de latin, de gens qui seraient les latins. Hein, et, mais le latin n'est qu'une langue. Hein, et c'est que parlent tous les citoyens romains. Hein, mais ce n'est pas pour autant que qu'il faudrait... coller le latin et les romains ensemble. D'abord parce que les romains parlent aussi grec, et d'ailleurs, il faudrait souvent s'étonner du fait que les romains ne parlent pas romain. Jamais personne ne s'étonne, c'est normal, parle latin. Enfin bon, je veux dire, est-ce vraiment si normal? C'est pas plus normal que le fait que les gens au Mali parlent tous français, entre autres. Hein, c'est à peu près du même ordre, vous verrez. Bon, alors, donc le latin n'est qu'une langue. Hein. Alors, le problème, c'est, est-ce que le latin peut renvoyer à une identité culturelle? Est-ce que les latins, le latin, c'est la langue de gens qui seraient latins, qui seraient une ethnie, etc.? Eh bien, pas du tout. Hein. Si on cherche bien, enfin, on n'a pas à chercher très loin, d'ailleurs, hein, il n'y a absolument pas d'ethnie latine. Hein. Il y a le latin et la langue d'une collectivité qui se définit comme une ligue, hein, de gens qui vont, qui sont allés, bon, peut-être... 4e, 3e siècle, qui participent à un sacrifice commun au monté, ce qu'on appelle aujourd'hui le monté, enfin, disons que un mont qui s'appelle le mont latin. Alors, donc, en fait, on ne peut pas opposer des Romains de souche, hein, à des colonisés qui seraient des citoyens de fraîche date. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Romains de souche. Hein. En effet, je vous ai dit qu'il n'y a pas de culture latine qui serait comme ça une sorte de noyau identitaire, mais de la même façon, hein, les Romains ne peuvent pas renvoyer à des ancêtres qui seraient purement romains. Il n'y a pas de purement romain, hein, qui serait là comme ça, de souche, justement, avec cette fameuse expression, hein, ancré comme ça, quasiment sorti de la terre, un jour ou l'autre. En fait, les citoyens romains sont fictivement tous un Romain de souche. Je vous expliquer pourquoi. Ou pas de souche. En effet, l'obtention de la cuita, c'est-à-dire de la citoyenneté romaine, se fait toujours par héritage. C'est-à-dire qu'elle est toujours héritée d'un père ou de la mère si l'enfant n'a pas de père légitime. Mais c'est toujours hérité. Et cet ancêtre qui a la cuitas, il l'a eu parce qu'il s'est installé, venant d'ailleurs, dans une autre ville, dans une ville de l'Imperium Romanum, mais qui n'est pas Rome, ce qu'on appelle un municipe, dont les citoyens sont aussi citoyens romains. Ça peut être vrai, ça peut être une fiction, peu importe. Hein, c'est toujours comme ça que c'est représenté. Cette ville est l'Origo. Hein. Donc, l'ancêtre qui est arrivé, peu importe, il est venu d'ailleurs, et d'ailleurs on ne sait jamais d'où il est venu, on l'oublie tout de suite. En plus, c'est pratique si c'est une fiction. Il a une kiwitas qu'il va léguer ensuite à son fils avec son nomen, son nom. Ainsi, Marcus Tullius Cicero, il est citoyen romain parce qu'il a un nomen, Tullius, et un praenomen, Marcus. Cela dit, comme vous savez, il est né dans une petite ville du Latium. Alors, donc, les étrangers qui reçoivent la kiwitas se voient attribuer une ville dont ils deviennent citoyens par héritage d'un ancêtre fictif venu d'ailleurs et installé dans cette ville. Hein. Du jour au lendemain, n'importe qui, et souvent des communautés entières, obtiennent la kiwitas par juste la volonté d'un magistrat, d'un général, d'un gouverneur de province, qui peut très bien d'ailleurs ne les avoir jamais vus. Hein. Donc, concrètement, ils accèdent ainsi à quoi ? Au ius sicuile. Parce que qu'est-ce qui est important quand on est citoyen romain ? C'est d'avoir le ius sicuile, c'est-à-dire l'accès aux droits privés, aux droits des affaires. Ils peuvent aussi entrer dans la vie publique de leur cité, hein, être magistrat municipal, bienfaiteur et tout ça. Bon, voilà. C'est ça, mais tout le monde, si vous voulez, a un ancêtre, fictif ou pas, hein, qui s'est installé. Le modèle, l'emblème de tout ça, c'est évidemment une histoire bien qui ira beaucoup plus tard, hein, qui est celle d'Aînée, venant de Troie, arrivant à Lavinium, hein, dont le fils Iule donne son nomen à des gens qui, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard et sans aucune médiation, s'appelleront les Iulii. Voilà, c'est exactement le modèle. Bon. Alors, donc, que dire ? C'est-à-dire que la Rome impériale n'est pas une société multiculturelle au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire où des gens formeraient des communautés, hein, qui auraient des cultures qui seraient étrangères à la culture du pays où ils arrivent, hein, et qui seraient donc, comme on le voit aujourd'hui, et qui conserveraient une partie de cette culture. En effet, c'est un ensemble de villes, hein, de villes, hein, dont Rome ne fait pas partie, hein, où la vita ou les mores, les façons de vivre varient. Hein. Il y aura Arles, une ville, vous avez plein de villes en Afrique, ce que nous appelons aujourd'hui l'Afrique du Nord, en Espagne, etc. Tout le monde est citoyen romain, hein, mais ils ont des modes de vie qui varient selon la classe sociale, les provinces. Chacun et chaque habitant aura plusieurs espaces de référence, hein, selon les moments de la vie ou selon ses traditions locales, hein, mais tous, ils ont ces tria nomina, les trois noms romains. On leur demande rien, ni de parler latin, ni de parler de grec, ni rien du tout, mais en fait, les choses se font de façon nécessaire, parce que plus un homme est élevé dans la hiérarchie, plus il est riche, plus il adopte la vie gréco-romaine, hein, le mode de vie grec-romain ou le latin, parce que qu'est-ce que ça va lui apporter de, comme on dirait aujourd'hui, s'intégrer ? Eh bien, il va pouvoir avoir son nom écrit sur le temple dont il a dédié trois marches, hein, dont il a payé trois marches, hein, je dis par exemple, ou un peu plus. Hein. Il peut être élu aux charges municipales, il peut même aller très très vite, on verra des exemples dans quelques instants, être protégé par l'empereur, et même finir empereur lui-même. Je veux dire, donc en fait, c'est un vaste système d'ascension sociale extrêmement rapide, le cas échéant, mais qui ne s'impose pas. Je veux dire, simplement, plutôt être riche, heureux et confortable, hein, qu'être pauvre et errer dans le désert. Voilà, donc c'est, si vous voulez, je plaisante un peu, mais c'est comme ça. Hein. En plus, on ne vous demande rien. Hein, on ne vous demande rien. Sauf. Non, on vous doit, c'est-à-dire aucune impose, rien ne vous est demandé d'un point de vue culturel. Si vous voulez, il n'y a pas besoin de connaître l'histoire de Romulus ou de savoir le latin, hein, pour devenir citoyen romain. Et comme vous savez, ça a quand même assez bien marché. Alors, là, en plus, la religion elle-même, comme vous savez, la religion romaine, c'est l'accumulation de dieux. Hein. Non seulement tous les dieux sont bienvenus, hein, mais encore... ils n'ont pas vraiment d'individualité. En effet, tous les dieux sont ce qu'on appelle interprétés. Je vous donne l'exemple. Baal, qui est un dieu phénicien, est interprété soit en Saturne romain, soit en Chronos grec. Hein. On peut dire que la seule chose le seul culte qui soit commun à toutes les cités de l'Empire, c'est le culte de Rome et d'Auguste. Hein. Bon, voilà. Alors, donc... voici. Donc, vous avez en fait des citoyens romains, hein, qui vont être, si je peux dire, eux-mêmes, chacun étant multiculturel. C'est-à-dire qu'en fait, chacun va avoir réunir dans sa personne différentes dimensions, différentes références qui ne sont pas conflictuelles. Alors, je vais prendre un exemple. Peut-être vous connaissez bien si vous aimez un peu la littérature. Hein, c'est celui de Trimalcion, hein, qui est un personnage du Satyricon, dont le nom vient du phénicien, enfin, avec un tri devant. Hein. Bon, c'est une fiction, mais il est trois fois... Bon, vous voyez, c'est Moloch qui est là-dedans. Hein. Or, quand vous voyez le personnage de Trimalcion, qu'est-ce que c'est ? C'est un affranchi, hein, donc il a un nom... Il a un nom romain, hein, mais à aucun moment, hein, n'est présent ce qu'on pourrait appeler sa culture originelle. Bon, il est arrivé, il raconte son ascension sociale, il est arrivé à Rome, il était adolescent, il avait 15-16 ans. Hein, bon, ça a été, il a fait une carrière formidable, c'est ce qu'on appelle la success story. Mais là, quand vous regardez la success story de Trimalcion, c'est un lieu commun de toute la civilisation, de toute la, même je dirais la littérature latine, hein, puisqu'on la trouve chez Plaute. Donc en fait, il n'a rien de spécifique. Hein, il a ni de phénicien ni quoi que ce soit. Hein, il n'est que son succès. C'est ça qui est formidable. Alors, je vais prendre deux exemples autres, hein, qui sont que vous connaissez de figures que vous connaissez peut-être, mais vous avez vous ne pensez pas qu'ils sont romains. Le premier, c'est celui que je vais appeler de son nom Titus Flavius Josephus, hein, ou Josephus. Alors, bon, connu sous le nom de Flavius Joseph. Je raconte rapidement sa carrière. Hein. Il est donc issu... Alors, son nom en hébreu, si on le traduit à partir de l'hébreu, il est Joseph, fils de Matthias, le prêtre, ou Yosef, Ben Matmatiaou Hakohen. Hein, d'accord. Alors, il est en fait... il est né à l'extérieur. Hein, bon, il y a eu des guerres multiples, comme vous savez, entre la Judée et les Romains. Finalement, alors lui-même est plus ou moins général de l'armée de Judée. Bon, il voit que c'est mal parti. Et au printemps 67, donc, il se rend lors de la campagne de Vespasien et de Titus. Hein, il se rend... Et à cette occasion, il promet l'Empire à Vespasien dans un oracle inspiré des prophéties messianiques. C'est lui qui le raconte. Hein. Bon. Et donc, ce qui lui vaut... Alors, donc, il est prisonnier. Il est prisonnier, donc il est esclave. En 69, il est affranchi par Vespasien au moment où Vespasien devient empereur. Bon, évidemment, il avait des raisons d'être affranchi. Vespasien l'emmène avec lui à Alexandrie, hein. Et dès lors, il se met au service des Romains Et après la grande révolte de Judée en 71, hein, il va à Rome avec son protecteur, où là, il obtient la citoyenneté romaine. Hein, c'est là qu'il prend le prénom de Titus et le nom de Flavius en l'honneur de Vespasien. Hein, et il écrit, il devient courtisan, donc il a une pension, etc. Pourquoi faire ? Pour écrire en grec tout ce qu'il sait de l'histoire juive. Oui, ça, je trouve, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est, c'est un protégé donc, de l'empereur pour écrire en grec, parce que le grec, c'est la langue de culture de tout l'Empire. Hein, et puisque les Juifs sont intégrés à l'Empire, leur histoire fait partie maintenant du patrimoine. Aussi rapidement, un autre aussi dont vous croyez qu'il est grec, hein, c'est Lucius Mestrius Plutarchus, parfaitement, qui certes est né en Grèce, hein, mais qui a été à Chéronée, hein, en Béotie. Il est devenu ensuite citoyen d'Athènes. Hein, et comme il veut faire carrière, hein, il part à Rome, hein, où il se fait des amis importants. Hein, c'est le premier siècle, la fin du premier siècle après Jésus-Christ. Hein. Et puis donc il vient l'ami et il prend le nom de celui qui l'aide à être citoyen romain. Et ça va. Hein, et puis qui est Lucius Mestrius Florus. Hein, voilà. Et puis les Romains le font désigner comme prêtre d'Apollon à Delphes. Hein, et enfin, vers 502, il commence l'immense travail de son œuvre, les vies pas parallèles, et là, par ses écrits et ses conférences, il devient une célébrité dans l'Empire romain. Il occupe donc une place importante dans sa municipalité natale, hein, et on ne sait pas si c'est Trajan ou Adrien, il obtient les ornements consulaires. Voilà. Alors, si vous voulez... Je crois que c'est... vous avez ici trois exemples, un de la littérature, d'autres appartiennent, les deux autres appartiennent à l'histoire, hein, où on voit que... c'est pour ça que je vous ai donné ces exemples de strates, hein, où il n'y a pas de conflit entre des cultures différentes, car en fait, elles sont présentes dans une même personne. Hein, et par conséquent... vous avez donc cet exemple entier de Plutarque, hein, dont il ne faut pas faire un résistant à Rome, puisque en fait l'empereur le protège pour qu'il soit un auteur grec. Et je vais aller même plus loin. Il y a une chose assez, il y a une coutume sous l'Empire qui doit dater d'Adrien, je crois, hein, mais c'est que à Platée. Platée, donc, qui est le lieu célèbre de la combat pour la liberté, hein, il y a eu des jeux, c'est-à-dire pratiques romaines, qui ont été créés, qui s'appellent les Jeux de la liberté. Et selon l'idée que les Romains se font des Grecs, hein, eh bien, celui qui va gagner le concours, c'est celui qui sera à la fois le meilleur poète et le meilleur sportif. Bon. Alors, et à ce moment-là, il aura la palme du meilleur des Grecs, hein, donnée par les Romains, l'empereur lui-même, le cas échéant. Alors, vous voyez, donc, c'est assez intéressant, puisque, en fait, il y a certains aspects donc, qui sont traditionnellement rattachés à un endroit ou à un autre, hein, et à l'intérieur de l'Empire romain. Et une sorte de, il y a une multiplicité, hein, qui est donc protégée et donc activée par les empereurs. Alors, bon, cette situation sous l'Empire, qui consiste à absorber tout ce qui vient de l'extérieur et à le cultiver pour tel en le romanisant, ça n'est pas, c'est pas nouveau. Hein, je ne vais pas vous donner toutes les citations, mais on a un certain nombre de textes, et qu'on a en particulier qui va de Cicéron en passant par Denis d'Halicarnasse jusqu'au discours de l'empereur Claude en 48, dont je parlerai un peu plus, qui consiste à affirmer sans cesse que Rome est a pour spécificité de ne pas avoir d'identité et d'être un ramassis je dis exprès un ramassis parce que exprès il y a une sorte d'auto-humour hein, chez les Romains, un ramassis de tout et de n'importe qui, hein, mais en s'élargissant toujours, et que le seul critère pour être intégré à l'Empire romain, hein, c'est d'être le meilleur dans son genre. Hein. Alors, vous avez donc ici, c'est raconté par Cicéron, Denis d'Halicarnasse dit d'ailleurs de façon assez intéressante, il dit c'est ça que les Grecs ont manqué, ils ont passé leur temps à massacrer leurs ennemis une fois qu'ils les avaient vaincus, hein, et en tout cas à les mettre dehors, alors qu'à Rome, l'ennemi d'hier, c'est le concitoyen de demain. Alors, je vais juste citer un petit bout du discours de Claude en 48 après Jésus-Christ, un discours qui a été refait par Tacite, hein, mais qui dit la chose suivante, hein, c'est que ce qui fait la force, parce qu'il était question de mettre toute une fournée de sénateurs gaulois, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont des citoyens romains de Gaulle, hein, au Sénat. Et il dit, alors il y a des gens un peu qui râlent parce qu'ils disent, oui, nous, pourquoi c'est les Gaulois, enfin, bon, alors, donc, il dit, ça, c'est la bonne politique qui a toujours eu lieu, hein, et il dit, depuis Romulus lui-même, en ouvrant l'asilum, qu'est-ce que c'est, les premiers Romains, c'est qui, hein, ce qu'on appelle les patres, hein, c'est donc des gens qui sont arrivés d'un peu partout dans un lieu qui est une moitié du Capitole qui a été déclaré asylum, c'est la partie extérieure du Capitole, hein, où Romulus a dit voilà, tous ceux qui veulent venir, ils seront protégés. Et il ne pourra pas les poursuivre. Alors, il y a eu des assassins, des esclaves fugitifs, des gens souillés, etc. Ils sont tous arrivés, des bergers, des brigands, enfin tout ça. Hein. Et on ne voulait rien savoir de leur passé. Ils étaient désormais les citoyens romains. Et si vous voulez, c'est un récit exemplaire. Voilà. Et c'est quoi ? Alors, vous voyez bien que même si on prétend être un Romain, entre guillemets, de souche, même si on s'invente un ancêtre qui a bien connu Romulus, hein, et ben c'est qui cet ancêtre qui a bien connu Romulus ? Ben, mieux vaut peut-être ne pas trop voir hein, ce qu'il avait fait avant. En tout cas, c'est des gens dont il n'y a rien à dire. Le mieux, c'est de ne pas avoir d'origine dans ce cas-là. Donc, voilà. Donc, il conclut son discours, Claude. Des étrangers ont régné sur nous, des fils d'affranchis ont accès aux magistratures, non pas comme bien des gens le croient à tort par une innovation récente, mais par une pratique fréquente de l'ancienne République. Alors, mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous faites de tous ces textes où on voit des Romains qui revendiquent ce qu'on appelle le mos maiorum, les traditions ancestrales, etc., dont la figure est exemplaire, hein, c'est évidemment Caton. Et voilà. Alors, donc, en fait, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? En fait, je vais juste prendre un exemple de cette affaire de Caton. Est-ce que lorsque Caton revendique une vieille tradition romaine, à quoi se réfère-t-il ? Est-ce que vraiment il y en a une ? Est-ce que moi je me suis trompée depuis le début là ? Bon, ou bien est-ce que c'est un fantasme impérial ? Bon, absolument pas. Alors, je vais juste prendre un exemple. Caton dit voilà, c'est scandaleux. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, hein, puisqu'il est né en 234, il est mort en 149, voilà, enfin, 3e, 2e siècle. Par exemple, il dit voilà, c'est scandaleux. Rome est envahie par les arts, les lettres et les plaisirs grecs. Autrefois, on était des bons vieux Romains. Regardez, par exemple, on met des statues en marbre dans les temples. Autrefois, on avait des bonnes vieilles statues en terre cuite. Voilà. Bon, exemple. Alors, bonnes vieilles statues en terre cuite. Nous, on regarde les bonnes vieilles statues en terre cuite. 5e siècle avant Jésus-Christ, l'Apollon de Véies, qui est une statue sur le modèle grec. Voilà. Bon, en fait, il n'y a jamais eu de Rome qui ne soit pas grec. Au sens de l'ordre. Voilà. En fait, Rome, bon, je ne suis pas la seule à le dire, heureusement. Bon. Rome a toujours été Rome était une cité hellénisée comme toutes les autres. Depuis, on va dire toujours, puisque de toute façon, plus on remonte, plus on trouve de traces grecques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais aller vite. Il s'est passé qu'effectivement, au IIe siècle, IIIe, IIe siècle avant Jésus-Christ. Au moment où Rome conquiert, bon, après avoir vaincu Carthage, conquiert le bassin méditerranéen, successivement l'ouest et l'est. Il arrive cette chose intéressante et qui, je crois, va faire plaisir, enfin, elle le connaît déjà à Barbara, c'est que Rome s'invente une identité non grecque avec la seule chose, enfin, non, pas la seule chose, avec une de ses possibilités, c'est de dire, voilà, c'est de faire du latin, une langue qui va l'identifier comme. Alors, pourquoi qui va, c'est-à-dire qu'elle va faire du latin, qui était une langue vernaculaire, hein, alors que tout le monde utilisait le grec à la fois pour la poésie, la langue diplomatique, etc., jusqu'au IIIe siècle. Hein. Les premières histoires romaines sont écrites en grec, hein, ainsi que la poésie érotique. Bon, alors, eh bien, le latin va devenir un autre grec, c'est-à-dire ce qu'affirment les Romains, et ils ont le pouvoir des armes, hein, c'est que cette langue, le latin, va devenir la langue diplomatique, avec toute la dignité du grec. D'ailleurs, le latin est décrit exactement sur le modèle de la grammaire grecque. Hein, et il y a des expressions qui, en latin, qui vont faire du latin l'altera lingua. Alter, c'est, il y en a que deux. Hein, l'autre langue. Et parlant du grec et du latin, utraque lingua. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est cette promotion du latin. Alors, vous voyez que c'est subtil, parce que c'est à la fois la même chose que le grec, mais un autre grec. Et en même temps, ça n'est pas du grec. Et ça, c'est Rome. C'est-à-dire, Rome, c'est à la fois une ville grecque et une ville qui s'oppose à toutes les autres villes grecques. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour faire ça, il a fallu que Rome fasse une invention extraordinaire. Rome a inventé la Grèce. Alors, c'est le titre d'un numéro de revue de Métis qui nous a valu quelques étonnements de la part de nos collègues hellénistes. Enfin, ils ont collaboré aussi. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, la Grèce comme entité. C'est-à-dire que le mot grec lui-même n'est pas grec. Hein, ça vient d'un dialecte italique. Et ce qu'a inventé Rome, c'est que la Grèce ferait un tout, qu'il y aurait une entité grecque, hein, ce que jamais n'a jamais existé. Je veux dire, les Grecs n'ont jamais existé. Au contraire, comme le disait d'ailleurs rappelé Barbara en introduction, hein, ils ont chacun cultivé leurs différences, y compris d'avoir des langues différentes. Hein. Et le grec, par exemple, qu'on apprenait dans les lycées, est une pure fiction. C'est le néo-attique que les Romains, d'ailleurs, alors les Romains eux-mêmes ont inventé un grec qu'on appelle le grec des Romains, et qui est un grec commun, hein, qui n'est pas la koiné, qui est encore un autre truc, hein, qui est un grec littéraire, cultivé, etc., mais que jamais aucun grec n'a parlé. Hein, de même que, donc en fait, il y a cette invention de la Grèce comme entité, vous savez aussi d'ailleurs, même on en est au point que Adrien a voulu faire d'Athènes la capitale de la Grèce. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande fiction qui aurait Rome et la Grèce. Mais comme la Grèce n'existe pas, on est obligé de l'inventer pour inventer Rome comme étant la non-Grèce. Oui, le système. Alors, voilà. Ben oui. Alors, le mos maiorum, passons, c'est évidemment. Alors, le mos maiorum, c'est assez amusant, la coutume des ancêtres, c'est que lorsqu'on regarde ce qu'il y a dedans, on peut mettre n'importe quoi. C'est une formule, on fait appel au mores maiorum, et ça peut être n'importe quoi. Hein, et donc, mais bon, formule sacrée, hein, révérence aux ancêtres. Alors, bon, donc, vous savez, bon, même. Bon, on pourra préciser dans la discussion. Donc, en fait, on a un système d'une kiwitas, qui est un système entièrement politique et judiciaire. Hein. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a toutes sortes de pratiques culturelles qui vont glisser les unes dans les autres, s'influencer, etc. Donc, voilà. Alors, c'est important parce que à partir de, disons, du IIe siècle avant Jésus-Christ et tout l'Empire romain, la Grèce en tant que Grèce n'existe pas de façon autonome. La Grèce, c'est la Grèce romaine. Alors, en conclusion, et on pourra comme ça, on aura le temps de discuter. Donc, en fait, le multiculturalisme, comme nous l'entendons, nous, hein, est prisonnier. Je pense qu'on a une vision... disons que de façon assez majoritaire, hein, quand on pense multiculturalisme, en fait, on pense des cultures différentes qui seraient associées. En fait, il me semble que les tenants du multiculturalisme sont en fait pas très loin des tenants de l'identité nationale, même s'ils prétendent s'opposer. Parce qu'en fait, tous restent prisonniers de l'idéologie de la pureté de l'identité culturelle. C'est-à-dire, les groupes, lorsqu'on remonterait, hein, un jour ou l'autre, on rencontrerait un noyau. Hein. Or, on s'aperçoit que, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se présente. Lorsqu'un groupe affirme son identité, hein, c'est pas du tout qu'il y a véritablement à la base de cette revendication une identité historique. En fait, il me semble que ce qui est grave dans bien des... Enfin, ce qui est grave. Donc, ce qu'on pourrait améliorer, peut-être, hein, c'est que dans bien des pensées du multiculturalisme, hein, c'est qu'il faudrait éviter de postuler l'altérité comme une donnée. Hein. On est abreuvé de rencontre de l'autre avec des A majuscules, plus C majuscules, mieux c'est, acceptation de l'autre. Mais pourquoi l'autre serait-il plus donné d'avance que le même, je veux dire, ou l'identique, hein. En fait, l'altérité, elle est tout aussi construite que l'identité. C'est un effet de discours, et en plus, c'est une valeur performative. Hein. Si on dit que l'autre existe, il va forcément exister. Alors, moi, pour soi. Hein. Et je crois que ça, c'est assez important. En fait, on a l'altérité, ou l'identité, elle est un effet de la relation concrète, hein, et non pas du tout un préalable. Hein. Celui qui arrive, il n'a pas plus de raison, hein, de le penser comme autre. Vous savez, c'est toujours cette vision. Ça. On est chez soi, tranquille, puis il y a l'autre qui arrive. Alors, si on est gentil, on l'accueille. Si on est méchant, on lui tire dessus. Mais ce n'est pas du tout comme ça que les choses sont vécues. Hein. Voilà. Vous allez tout de suite... si on sonne, est-ce que c'est le facteur? Est-ce que c'est mon voisin? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est trompé de porte? Enfin, je veux dire, c'est toutes les relations possibles qui sont imaginées. Hein, et on n'est pas à la rencontre de l'autre avec un grand A. Alors, ça, c'est des fantasmes. Alors, donc, à mon avis, c'est ce que montre l'exemple romain ou grec. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des relations, hein, qui sont posées et avec des effets. Hein. Les Romains ont posé les Grecs comme autres. Hein, et leur ont assigné un territoire, une langue, même une capitale, alors qu'eux-mêmes étaient Grecs. Et je veux dire, bon, ça nous rappelle des choses assez, enfin, relativement récentes par rapport à l'Antiquité, où tout d'un coup, des gens qui étaient... les mêmes, tout d'un coup, on a décidé qu'ils seraient autres. Hein. Voilà. Alors, du coup, on leur a trouvé des caractéristiques. Hein. Ils n'avaient peut-être pas le nez comme les autres, ni les cheveux comme les autres. Voilà. Hein. Et, etc., etc. Bon, je veux dire, la création d'une identité différente, ça peut arriver tout le temps. Vous voyez, les Romains se sont inventés Romains. Bon, alors, donc, ils se sont inventés Romains vers le 3e, 2e siècle, puis cette fiction identitaire, elle a disparu sous l'Empire gréco-romain, hein, cette opposition grecque, puisqu'en fait, tout a été intégré, hein, et puis les traditions se sont dissoutes les unes dans les autres. Hein, de même que le latin et le grec étaient définitivement les deux faces d'une même langue. Alors, donc, je crois que ça nous permet de réfléchir, hein, sur la possibilité contemporaine. Hein, et c'est ça, en fait, peut-être élargir l'imagination, hein, de la pensée du multiculturalisme. Hein, parce que pourquoi ne pas s'intéresser à cette diversité stratifiée chez chaque citoyen, hein, qui constituait l'identité romaine, hein. Et bon... Je vais juste prendre un exemple. Je suis sûre qu'il est mauvais, parce que les exemples pris à toute vitesse comme ça sont... On me dit toujours, mais c'est très mauvais. Mais je vais en faire un quand même, comme ça on pourra débattre. Il me semble, par exemple, il faut respecter... Alors, en prenant les jeunes maghrébins de la deuxième, troisième génération. Alors, voilà, il faut respecter leur culture, hein, leur communauté d'origine. Mais Vous savez bien qu'ils ils confondent l'islam et l'arabe. D'ailleurs, ils ne savent pas un mot d'arabe. Ils ne connaissent rien à leur religion, que des choses comme ça qui entrent. Hein, et qu'ils ont, ont les mêmes pratiques culturelles que leurs voisins qui sont soit africains, soit qui arrivent de Bretagne, ou même qui sont nés dans le 9-3. Alors, donc, en fait, c'est cette, je crois que cette culture, ce qu'il faut, je crois, dénoncer, et on passe, c'est, enfin, dénoncer, il faut dire ce que c'est. Pourquoi ? On peut, évidemment, s'inventer tout ce qu'on veut. Hein. On peut s'inventer une culture beurre, mais à ce moment-là, n'importe qui peut se décider qu'il est beurre. Hein. Je crois qu'il faut, bien dire que l'altérité n'est jamais donnée et que les identités sont de toute façon toujours fictives. Bon. Voilà. Bon. Voilà.
Tu t'arrêtes là.
Oui, je m'arrête là. Je trouve que ça suffit largement.
Bon, je donne la parole à la salle dans un instant, mais j'ai deux, trois petites questions à poser. En tout cas, mon souhait qui était qu'on secoue les choses et qu'on commence à produire ce qu'Achille Mbembe dans La raison nègre appelle un contre-imaginaire, ça commence à se faire. Voilà. Donc, merci, vraiment. Moi, j'ai une première question sur ta manière de parler de l'homme et de dire que non, bon, ça... Alors, autant je trouve absolument admirable et admirable parce qu'incroyablement juste la manière de refuser à homo sum humani nihil, mais alienum puto, à cette phrase que tout le monde cite pour fonder l'humanisme. Lui refuser son sens, disons, cucu, et pour dire, bon, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Non, au lieu de dire ça, on dit, voilà, je suis n'importe qui, mais enfin, arrête, je sais faire le baise-main. Bon, très bien. Et je suis sûre que les contresens que tu mets en lumière, la syndette, le rapport entre, enfin, le sens de homo qui donne on et le rapport compliqué entre homo et humanus, c'est-à-dire, moi j'ai toujours cru que ça avait la même racine, et c'est vrai que ça n'a pas la même racine.
Bien, c'est un jeu de mots.
C'est un jeu de mots, mais ceci dit, c'est assez compliqué parce que homo vient peut-être quand même de humus, c'est-à-dire de la terre. Enfin, tout le monde a l'air de le dire, ça. Donc c'est assez marrant. Comme si on poursuit l'étymologie. Bon, enfin, on peut laisser ça de côté. Bon, donc, autant je suis complètement d'accord avec la manière de secouer cette grande galéjade humaniste, autant je ne suis pas complètement sûre que... Enfin, je suis pas complètement convaincue par le fait, si tu veux, que parce qu'on passe des mortels aux dieux et parce qu'il y a une possibilité de perméabilité, il n'y ait pas du tout quelque chose comme une définition de l'homme possible. Et je pense que justement, anthropos, pas du tout brotoi, pas du tout les mortels par rapport aux dieux, c'est absolument vrai que pour les Grecs aussi, la personne qui arrive en face, dans toute Homère, on te dit, oh, tiens, c'est peut-être un homme, c'est peut-être un dieu. Bon, que tu sois homme ou dieu, que tu sois femme ou déesse, c'est tout le temps ça, le divinulis, etc. C'est pas pour autant que... Aristote ne pose pas une essence de l'homme et que les philosophes n'agissent pas pour fabriquer quelque chose de, disons, pseudo-universel. Après, pseudo, peut-être, hein, mais bon, ça, c'est quand même...
Mais alors, mais justement, parce que moi, je me demandais, parce que le zoon politikon, c'est pas une essence de l'homme.
Non, mais animal doué de logos, c'est pas mal.
Mais c'est pas mieux, parce que partir du zoon... C'est pas une essence, ça peut pas être une essence.
Si, c'est une définition réciprocable. C'est pas une essence, c'est impropre.
Oui, mais d'abord, Alors, ça pose tout le problème. Oui, d'accord. Bon, Logicon, ça. Mais bon, pourquoi zone, je veux dire. Mais
parce que c'est pas parce que. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une perméabilité. C'est pas parce que il y a un genre supérieur à celui de l'homme. L'homme fait partie des animaux. Sa différence spécifique.
Hein, mais à part Aristote, personne ne dit que l'homme fait partie des animaux. Je veux dire. Alors le problème, alors,
ça choque personne de le dire. C'est un vivant. C'est animal qui est mal traduit. Zoon, ça veut dire vivant. Bah si.
Non,
l'homme
mais,
est un vivant.
Non. Alors c'est tout le problème qui n'est pas seulement le tien, mais celui de gens comme Foucault, etc. Hein, c'est quel est le bon usage des philosophes.
Oui.
Oui, parce que alors non, mais moi aussi. J'ai longtemps cru que parler comme Flaubert. Non, mais c'est vrai parce qu'on est tous Bouvard et Pécuchet. C'est longtemps cru que les philosophes ne faisaient que théoriser quelque chose qui aurait été le savoir partagé. Et c'était pas, au fond, pas une très bonne idée des philosophes. Mais ils peuvent aussi dire des choses complètement sans rapport. Avec la façon dont la plupart des gens pensent majoritairement. Et alors, bon, c'est tout le problème d'Aristote, parce que, bon, pour moi, Aristote, tel que je le connais dans la poétique et dans la rhétorique. Alors, dans la rhétorique, Aristote parle vraiment de l'éloquence. Il parle vraiment de la rhétorique. Ce qu'il dit a vraiment est en relation avec les pratiques réelles. Ce qu'il dit dans la poétique sur le théâtre ne l'est pas. Donc, alors voilà, c'est-à-dire que faire, d'abord des philosophes en général, c'est sans doute très mal dit. Que faire d'Aristote ? Et Aristote, il construit des systèmes absolument géniaux, mais qui peut-être ne renvoient à pas du tout ne renvoient par certains moments pas du tout à la représentation que les Grecs pouvaient avoir de l'être humain. Et de l'être humain, parce que je pense que il faudrait trouver ça ailleurs. Parce que Aristote ne témoigne que de lui-même. Alors, si on arrive à le faire interférer avec d'autres témoignages, ça va. Mais si c'est lui-même, tout seul, c'est pas suffisant.
Enfin, bon, là, c'est vraiment un truc brûlant et compliqué, parce que Aristote interfère avec tout ce qui suit, c'est-à-dire avec nous.
Oui, mais
c'est ça le point. Quand je dis cherchons une définition, enfin, y a-t-il une définition de l'homme
Entre Aristote et nous, il y a quand même.
Des siècles aristotéliciens ou platonico-aristotéliciens. Pareil avec le principe de non-contradiction. Je veux dire, là, on est dans un truc. Je dis pas que Aristote c'est les Grecs. C'est pas, à mon avis, je sais même pas ce que ça pourrait vouloir dire. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Aristote c'est une immense tradition qui nous atteint, qui nous a constitués d'une manière ou d'une autre.
Oui, voilà. mais ça, c'est autre chose.
Non.
Ben si, parce que puisqu'il s'agit de faire un contre imaginaire, voilà. Et si on se dispensait d'une définition de l'essence de l'homme.
Parce que en fait, produit comme ça, je veux bien. L'argument ne me convainquait pas. Ne m'a pas convaincue de dire que parce qu'on n'arrive pas à trouver un mot pour dire.
Non, parce que ce que je veux dire en fait.
Homme sans qualité. Anthropos, c'est ça.
Oui, mais à part que ça renvoie jamais à personne. Je veux dire, à rien. C'est-à-dire qu'en fait. Ce que je veux dire, c'est par exemple. Parce qu'il y a des. Je vais m'arrêter là. Il y a des textes de Cicéron, ou Cicéron d'ailleurs. On a le sentiment qu'il définit une essence de l'homme. Et on s'aperçoit que ce n'est pas vrai du tout. Qu'en réalité, il essaye une définition, mais uniquement des gens qu'il connaît, c'est-à-dire des hommes civilisés. Donc c'est pas un homme. C'est-à-dire qu'en fait, jamais avec cette définition-là, il va aller voir un type qui est loin dans les montagnes du Caucase pour dire c'est un homme.
Bon, alors là, on est à nouveau complètement d'accord, parce que c'est bien ce que je dis quand je dis que logos, si tu veux, c'est le sien. Aristote, pour Aristote, l'homme est un animal doué de logos, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il parle comme lui. Bon, on est donc d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas un vrai universel, qu'il n'y a pas d'universel non approprié. Voilà.
Bah oui, mais alors, sur là, on est d'accord.
Malheureusement, oui.
Donc, s'il n'y a pas d'universel non approprié.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de mots pour dire quelque chose de l'ordre. On essaye. Regarde, anthropos, c'est fait pour désigner un universel. Ça, d'accord ?
Je ne suis pas sûre, parce qu'anthropos est très universel.
Bon.
Attends.
En fait,
ce qu'il faudrait faire, et je ne suis pas sûre que quiconque l'ait déjà fait, il faudrait voir tous les emplois d'anthropos dans les textes grecs et voir ce que ça donne. Parce que pour l'instant, moi, c'est vrai, Alors, attends. Non, parce que c'est formidable ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, ce mot est fait pour désigner l'universel. Oui, mais en même temps, je me demande, à quoi ça sert pour des Grecs de désigner l'universel? En quelles circonstances ils auraient besoin de désigner...
Les philosophes font que ça.
Non, mais les philosophes, c'est là.
Je veux dire... Eh bien, c'est un petit bout des Grecs.
Non, non, mais les philosophes.
Je trouve que ça nous est arrivé quand même dans, dans le cadre.
Les philosophes, je ne pense pas du tout qu'ils passent leur temps à parler de l'universel en Grèce. Mais ça, alors, ça se discute. Voilà. D'accord. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si tu dis. Parce que, bon, c'est vrai que homo, bon, ça va, mais. Enfin, je suis beaucoup moins léniste que latiniste, donc là, je suis en situation de faiblesse. Mais il faut. Non, mais c'est ce qui est bien. Ce qu'il faut, c'est voir. C'est ça, parce que si on est dans la pragmatique, il faut voir à quoi sert ce mot.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Bon, c'est tout. Bon. Eh ben, le travail est à faire. Mais c'est des gens qui ont envie de le faire.
On est d'accord et le problème est posé. Voilà. Bon, maintenant, mais juste.
Oui.
Si vous voulez, la première différence qu'ils ont fait les Grecs
entre
les hommes et les animaux, c'est que les animaux regardent en bas et les hommes regardent en haut.
Enfin, évidemment, il y a un problème avec les singes.
C'était une approche phénoménologique de la chose. Bon. Le logos est venu après.
Bon. Peut-être.
En tout cas, c'est, pour le travail à venir, c'est une suggestion à garder. Ouais. Hein, merci.
La main aussi, enfin bon, le pouce opposable, tout ça, et le rire, bon, tout ça, effectivement, et puis alors le logos. Mais ok, le problème est posé. Bon. Moi j'ai juste une question, alors là, qui va simplement ouvrir le débat. Je veux dire que qu'est-ce qui se passerait si on pensait la citoyenneté européenne, si tu veux, sur le modèle de la civitas romaine? C'est-à-dire avec plusieurs espaces de référence, une identité stratifiée. Une stratification de la personne, mais alors le point où ça devient juste un peu différent, me semble-t-il, c'est le rapport à la langue, justement. C'est-à-dire que le latin est quand même la langue politique, celle du jus civile, et ça tu as beaucoup insisté, et c'est une langue, une des langues, une des trois en tout cas, langues, parce que mon idée est que Rome a évidemment inventé la stratégie de Lisbonne, hein, c'est-à-dire le latin, bon, le grec comme langue de culture et une langue vernaculaire quelconque, bon, ouais. Une plus deux. Mais une fois que tu dis que le latin c'est la langue politique, la langue du jus civile, quel est l'équivalent européen, ben, si on se laisse entraîner par ce qu'on exige de nous en Europe, en tout cas de nous chercheurs, de nous qui ont besoin de fric, c'est-à-dire qui allons demander à Bruxelles, soumissionner des dossiers, y compris à l'ANR, à l'Agence nationale de la recherche française, on nous demande de parler anglais. Donc on nous demande de parler, non pas anglais, parce que on parle très mal anglais, mais c'est vrai, mais de parler globiche, c'est-à-dire de demander... j'oublie les mots tellement ils sont épouvantables, de faire des case studies, etc. Enfin, de demander.
Non, mais je veux dire.
Donc, le globish ne fera pas office de latin.
Non, mais de toute façon, il n'y a pas d'institution politique en Europe. Je veux dire, on ne peut pas. On faudrait commencer par la France.
Oui.
Parce que ce projet, il est intéressant pour la France. Hein, c'est-à-dire qu'on cesse de faire de l'identité de la France, d'imposer aux Français une identité nationale qui serait autre chose qu'une grande diversité, hein, qui est elle-même une histoire. Je veux dire, l'histoire, qu'est-ce que ça raconte, l'histoire de France? Enfin, l'histoire de France, quoi. Je ne sais pas quand ça commence. Je veux dire, comme vous savez, la France est une fiction récente, relativement récente, et que bon, elle est. Voilà. Enfin, disons que il y aurait une sorte de chose commune, hein, mais qu'on cesse. Moi, je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Mmh. Hein. Alors, le français peut être ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en France et qui me désole. Et qui est voilà, c'est tout. Mais en revanche, l'Europe ça peut pas marcher, si puisque la civitas romaine c'est d'abord des institutions politiques. Donc il faudrait que d'abord parce que pourquoi le latin c'est la langue, c'est parce que c'est la langue des institutions politiques communes. Donc il n'y a pas d'institutions politiques communes en Europe, hein, et voilà, donc on n'y est pas. Ça serait formidable qu'on y soit, mais on n'y est pas.
Oui, enfin, ça, c'est vraiment, je trouve que ce que tu as raconté là, de ce que tu nous as décrit de la stratification, est quand même vraiment nous élargit l'imaginaire là. Bon, la parole est à la salle.
Merci. Je dois dire que je suis partagé entre l'admiration et la gratitude. L'admiration pour ce qu'on vient d'entendre et la gratitude à Barbara Cassin qui nous a fait le plus beau cadeau de Noël. Là. Bon. Après cette captatio benevolentiae, dont j'ai deux points très précis. D'une part, le panthéon, donc l'accueil de tous les dieux et l'idée romaine, semble-t-il, j'espère que je ne me trompe pas, qu'on peut toujours accepter les dieux des autres, on ne sait jamais, peut-être que ce sera efficace et que ça peut augmenter la puissance de Rome, etc. etc. Donc l'idée du panthéon. Mais ma question est, cette affaire dont on nous rabat les oreilles depuis 2000 ans, de Paul de Tarse sur l'aréopage, donc dans le même sens que le panthéon, c'est-à-dire qui montre qu'il y a une inscription qui dit « O a eu Dieu inconnu ». Et qui disent « Dieu inconnu, ça y est, j'arrive, c'est moi, je vous l'apporte, c'est le Christ ». Et à ce moment-là, les Athéniens se détournent, lui disent « tu nous casses les pieds avec ton Dieu inconnu » et même je crois qu'il rit. Et donc ma première question très précise, c'est est-ce qu'on pourrait pour une fois, ou en tout cas peut-être, enfin, à part de vous sans doute, ça viendrait, enfin se mettre du côté des gens qui rigolent là et qui lui disent « laisse-nous, arrête-nous casser les pieds ». Et tout ça, voilà. Mais enfin, de ce côté-là, au lieu de depuis 2000 ans, on nous dit « Ah ben oui, c'est lui qui avait raison, le Dieu inconnu, il est en train de l'apporter. » Et que depuis toujours, cette inscription en grec-là était en train d'attendre le Christ. Bon, première chose. Et deuxième question, il n'y a que deux, c'est... je me souviens, mais alors là, je ne connais pas le texte par cœur, évidemment, il y a une lettre à Lucilius de Sénèque où il parle d'un esclave... Et il dit, un esclave, là, parce que vous, ça, c'est à propos de ce que vous disiez sur Cicéron qui dit, il ne va pas chercher dans le Caucase et tout ça. Mais là, l'esclave, il vient peut-être du Caucase. Et il dit tu devrais quand même te rendre compte qu'il est des mêmes germes que toi. Et je crois que le mot « yé », c'est « mina » ou quelque chose comme ça. Je le connais, je ne me rappelle pas très bien. Mais il dit, il est des mêmes germes que toi. Et donc, tu pourrais très bien être à sa place. Vous voyez ce que cette lettre-là enfin,
non,
bon.
c'est classique, oui, d'accord.
Oui. Ah oui, excusez-moi. Et il dit, ça dépend de la situation, ça dépend de ce qui est arrivé, il peut y avoir des guerres, tu te retrouves esclave, etc. Mais il a les mêmes séminaires que toi.
Non, mais ça ne pose pas de problème, parce qu'à Rome, de toute façon, les esclaves sont faits pour être affranchis. Vous avez vu le trajet de Flavius Joseph, vous avez tout à fait raison de ça, c'est la fortuna. Hein, la fortuna, c'est le hasard, ça vous met à tel ou tel endroit, mais cela dit, si vous vous débrouillez bien, hein, vous allez faire de l'argent, être bien vu de votre patron, et puis crac, vous serez affranchi. Non, mais c'est pas un problème. Pardon, mais non, c'est pas un problème d'essence. Il se trouve. Non, non, je veux dire, c'est un problème de fortuna, mais personne ne se demande ce qu'est un homme. Non, mais je veux dire, tu es né, ça veut dire simplement que tu as la même natura, la même naissance. Hein, la natura, c'est la naissance. Tu es né comme, etc.
Le sperme, enfin, entre guillemets, jusqu'à l'époque, il croit qu'il y a que le sperme qui engendre.
Non, non, pas du tout, ne croyez pas ça. Je veux dire, peut-être, mais je veux dire. Non, pas du tout, je veux dire, c'est une façon de dire. Hein. De toute façon, tout ça, c'est un lieu commun, excusez-moi, du stoïcisme. Oui. Hein. C'est, en fait, oui. C'est focalisé. Nous, on focalise sur Semina, mais eux, ils focalisent sur Fortuna. Hein. Et c'est en fait une morale, ça veut dire ne bats pas ton esclave, etc. Bon, c'est juste un problème de rapport de soi à soi. Mais si vous voulez, c'est pas problématique. Le problème, c'est qu'on croit toujours que les anciens essayent de comprendre les mystères du monde. Mais pour eux, le monde n'est pas mystérieux. Hein. Mais voilà. Hein. Bon, le monde se vit avec des grosses difficultés. Alors, ce qui est mystérieux, peut-être.
Ça veut pas dire l'esclave est aussi un homme.
Mais ça va de soi. Mais ça va de soi, mais ça veut dire. Mais non, mais parce qu'il n'y a pas d'homme abstrait, puisque de toute façon, l'homme est évidemment, l'esclave est évidemment un homme, puisqu'il peut être affranchi.
Alors, dans ce cas-là, c'est ce que vous disiez par la question.
Mais non, l'homme est votre... c'est pas un homme abstrait en situation d'esclave. C'est-à-dire qu'on peut, la même personne, hein, peut être esclave, empereur, affranchi, etc. Hein, mais justement, il a... c'est son trajet de vie. Hein, trajet de vie. C'est... Une lanterne. Un homme, ça veut dire... Diogène cherchait un homme au sens où il voulait quelqu'un qui soit parfaitement... qui ait accompli toutes les qualités. Simplement, si vous voulez, le problème, vous avez raison, tous vos exemples sont excellents. Hein, simplement, vous les interprétez tous de cette façon suivante. Il y aurait une sorte de noyau abstrait avec des qualités variables. Or non, les gens sont ce qu'ils sont au moment où ils sont. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, vos exemples sont parfaits, simplement, il faut les interpréter, selon moi, hein, non pas en termes d'essence, mais en termes uniquement de circonstances, de contingences.
Mais il n'y a pas un père commun pour qu'il y ait des germes communs.
Pas de père.
Et justement, ensuite, se fait le christianisme.
Non, il n'y a pas de père. Je veux dire, pas
mais
père.
Pour ma première question, qu'est-ce que vous diriez sur la rigolade des Grecs quand...
Mais rien, c'est une anecdote. Je veux dire, il n'y a rien à dire.
Grosse anecdote.
Non, mais c'est, là aussi, c'est rétrospectif. C'est tout à fait normal. Je veux dire, il faut voir. Et comme Paul est un grand, je veux dire, est un
oui.
Un sophiste.
Mais voilà, à partir du moment où on dit ça, moi, je suis d'accord. Ouais. De même, je suis d'accord pour dire que l'essence est une fiction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Tu comprends?
Non, mais c'est tout. Non, mais il n'y a pas de discours sur l'essence.
Voilà. Ouais.
Non, mais pas chez Sénèque, en tout cas.
Ah, pas chez Sénèque, voilà. D'accord.
Pas chez les stoïciens, oui.
Autre question ?
J'avais juste une remarque, c'est pas vraiment une question, mais quand vous aviez parlé de la construction fictionnelle de l'identité et de l'altérité, les deux au fait un peu le versant l'un de l'autre, je pensais à un texte de Cavafis, En attendant les barbares.
Oui.
Et voilà, je crois qu'il dit très très bien cette construction et le fait qu'on a au fait besoin l'un de l'autre pour renforcer sa propre construction et sa propre identité par rapport à l'autre.
Moi, je crois que c'est un merveilleux exemple. En plus, c'est un beau poème. Ouais, c'est un très beau texte. Oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, tiens, juste un petit mot. Je ne vais pas empêcher les gens de poser des questions. À propos des barbares, d'ailleurs, comme de toute façon... Quelqu'un va la poser.
Vas-y.
Les barbares. Parlons justement. Les barbares, c'est juste un barbare. Alors on dit toujours ouais, les barbares, ce sont ceux qui parlent pas la langue. Mais tout ça, c'est complètement faux. En effet, oui, il y a pas de barbare en soi. Et il y a pas d'ailleurs de gens qui soient barbares en soi. C'est un qualificatif qu'on va donner là aussi. Si on veut désigner. Des gens comme affreux, cruels, etc., et avec qui on ne peut surtout pas avoir des relations, en particulier diplomatiques, on va les appeler barbares. Alors, un exemple que je trouve assez intéressant, c'est celui des Étrusques. C'est pendant la première guerre punique, je crois, ou avant même. En tout cas, les Étrusques et les Grecs passaient leur temps à se battre dans la mer ionienne. Hein. Et donc... Alors, de temps en temps, les Étrusques sont désignés comme d'affreux barbares, hein, qui ont tué tout le monde, coulé les bateaux, etc. C'est des barbaroi. Hein. De temps en temps, au contraire, les Étrusques sont nos amis les Étrusques, nos cousins les Étrusques. C'est les chers Étrusques qui vivent comme nous, qui sont d'ailleurs des Grecs ou des quasi-Grecs. Hein. Et voilà, donc en fait, là encore, tout ce qu'on dit sur... Le barbaroi sur celui qui fait barbare, d'accord, hein, mais c'est à géométrie variable encore. Hein, c'est ce qu'on veut bien désigner comme barbare. Donc, par exemple, là aussi, les Perses n'ont jamais été désignés toujours comme barbares. Si vous regardez les Perses chez Hérodote, hein, ou chez Xénophon, c'est les plus civilisés des hommes, on va voilà.
Mais donc, même chez les mêmes.
Oui, chez les mêmes.
Chez les mêmes auteurs, c'est les pires et les moins bons, voilà. Et les meilleurs. Mais ça ne veut pas dire pour autant que... Évidemment, barbare est une notion stratégique comme homme, si tu veux. Moi, je veux bien ça, comme histoire. Comme, bon, tout ça, c'est de la fiction. Ça n'empêche pas que nous, quand tu en as à notre identité nationale, c'est exactement de la même chose qu'il s'agit, c'est-à-dire du même type de construction.
Absolument. Hein ?
Et je voulais juste lire une phrase, parce qu'il faut quand même entendre ça. C'est du Platon, c'est Aspasie dans le Ménexène. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit « C'est ainsi que la bonne naissance et la liberté de notre cité sont fermes et saines et par nature pleines de haine pour le barbare, parce que nous sommes purs grecs et sans mélange de barbares, car nul Pélops, Cadmos, Égyptos, Danaos ou autre, par nature barbare mais par loi grecque, ne partage notre vie. Nous vivons en grec authentique, sans mélange de sang barbare, d'où le fait que la haine pure à l'égard de la nature étrangère soit constitutive de notre cité. » Voilà.
Donc, ouais, mais ça, c'est un discours athénien. Mais les Athéniens sont particulièrement insupportables sur ce sujet.
C'est un discours athénien.
Enfin, ils étaient. Non, mais absolument. Mais voilà. Alors ça, c'est un discours possible.
Et en même temps, alors il y en a un autre immédiatement à côté, qui est, par exemple, celui d'Antiphon le sophiste, qui invente le mot barbariser et qui dit « nous barbarisons quand nous pensons qu'il y a des barbares ». En quoi il est encore un peu dégueu, parce qu'il appelle ça barbariser. Ouais. Il n'appelle pas ça helléniser. Bon, voilà.
Alors, puisqu'on est dans les citations, Denis d'Halicarnasse, dont toutes les antiquités romaines visent à prouver que les Romains sont des Grecs, hein, y compris que le latin c'est de l'éolien, eh bien, explique que qui c'est les barbares ? Parce qu'en fait, c'était un grand jeu de... Enfin, comme toutes les questions, se demander ce que c'est, etc. Bon, et il dit les barbares, en fait, c'est pas du tout la langue. Ce sont ceux qui sont incapables de mansuétude avec les prisonniers, etc., etc. Hein, ceux qui se conduisent comme des brutes, quoi.
Ça s'appelle logos, malgré tout. Hein, ça s'appelle Hellenizein. Ça conflagre ça.
C'est pas. Oui, enfin. Oui.
Blablabla. Oui, bien sûr.
Oui, mais enfin, c'est pas ça du tout, en fait.
Non. Bien sûr, c'est juste construit comme ça.
Ouais. Oui, mais en fait, c'est pas du tout, ça correspond à rien du tout, parce que en fait,
si tu penses que quand même les identités sont, enfin si tu penses que le performatif ça veut dire quelque chose, que la fiction ça fabrique, bon ben voilà, c'est fabriqué. Donc en même temps, tu as complètement de raison de dire que ça n'existe pas et que ça n'est pas une essence et que c'est stratégique. Mais c'est exactement de ça dont il s'agit. C'est une identité stratégique.
Mais pour répondre à votre affaire de barbare, là, en même temps, c'est une pure fiction, parce que il décide d'entendre telle langue un jour comme étant brebrebre, hein, et puis un autre jour, non. Alors, c'est ça qui est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que, c'est effectivement, comme dit Barbara, c'est uniquement stratégique. Enfin, qui est grec, on n'en sait rien. Mais la définition du grec est la chose impossible. Qui est grec ? Bon, les Macédoniens n'étaient pas grecs jusqu'au jour où ils ont eu la force des armes.
Alexandre, quand même. Alors, donc, là, ils sont devenus grecs.
Ils ne sont pas grecs, ils sont hellènes, ce qui n'est pas du tout pareil. Hein, et, bah oui, et ils vont devenir... parce qu'en fait, la reconnaissance d'Hélène... qu'est-ce que c'est la reconnaissance comme hellène ? C'est participer aux Jeux panhelléniques, c'est tout.
On peut dire aussi que c'est avoir fait la guerre de Troie, si tu veux, parce que ça se voit par exemple dans Isocrate, il explique que Hélène avec deux L.
Oui, mais ça c'est pas, y a pas, le mot n'existe pas dans chez Homère.
Non, il existe à partir, enfin il existe, oui. il est projeté sur Homère assez tôt, hein, sur la guerre de Troie assez tôt. Et c'est intéressant. Enfin, moi, je m'y suis intéressée parce que le jeu de mots est fait avec le nom de Hélène.
Oui,
donc,
c'est
à cause de la belle Hélène que les Grecs sont devenus Grecs. Bon, c'est assez beau.
En même temps, ils sont Achéens et les Troyens sont tout aussi Grecs qu'eux. Je veux dire, les Troyens sont
tout aussi Grecs. Tout à fait, mais d'un autre point de vue. Pas chez Homère et pas chez Isocrate.
Enfin, chez Homère, si.
Mais pas comme ça.
Bah, si, parce qu'ils sont, ils sont exactement les mêmes coutumes, la même langue. Il n'y a aucun problème de traduction. Chacun.
D'accord.
Donc, en fait, c'est un monde unique, le monde de la guerre de Troie.
D'accord.
Avec les Achéens et les Troyens.
Ben voilà.
C'est ensuite Hérodote qui nous a refabriqué tout ça. Mais expliquant que les Troyens... c'était des Perses.
Oui, c'est ça.
Enfin, bon. Mais
heureusement que c'est devenu des Latins. Bon, d'autres questions?
Merci. Oui, il ne faudrait pas peut-être introduire la notion de légitimité qui vient pour la suite après la création des fictions, parce que tout votre exposé a été dans ce sens-là, on s'en vient, mais il se trouve, il me semble qu'une fois que la fiction est créée, elle est mise en circulation, il y a une suite. Et donc, peut-être que la discussion là que vous installez on peut avancer si on introduit cette dimension-là. Mm-hmm. Parce que je pense on peut donner beaucoup d'exemples, plus de la vie contemporaine, des poids qui peut avoir la création d'une fiction à l'heure de définir une identité. Moi, à un moment donné, je pensais tout de suite à mon pays, l'Argentine, qui a comme la Rome que vous avez décrit, à un moment donné, dit, bon, allez hop, voilà un État national qui se crée. Moi, je pense toujours que tout ce qui a été étudié dans la philosophie politique à partir des exemples européens, et ne servent pas pour comprendre la réalité des pays en Amérique latine. Tout simplement parce que c'est l'État qui crée la nation en Amérique latine. Alors que l'Europe a justement l'habitude de croire qu'il y avait une nation d'abord et qu'à un moment donné, il y a eu la fiction de la création de l'État.
Alors, pas du
et
tout.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense, je reprends la particularité de l'histoire argentine pour donner un exemple et sortir de la Grèce et la Rome et venir un peu plus proche de chez nous. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que dans les années 1880, un groupe d'intellectuels qui a justement constitué l'État national a décidé qu'il nous fallait une population européenne. Et c'est comme ça que nous avons fait venir les Italiens et les Espagnols.
Bon, mais ne soyez pas trop longue, parce que là, je ne pourrais pas répondre là, si vous êtes trop longue.
Ah, vous allez répondre? Ah, je croyais qu'on réfléchissait. D'accord.
Ah, on réfléchit
ensemble.
Non, mais si vous voulez, une chose simplement que je voulais vous dire, c'est que c'est pas exact ce que vous avez dit sur l'Europe. En effet, l'idée de nation, elle n'a pas préexisté à l'État. Si vous prenez le Royaume de France, avant la Révolution française, qu'est-ce que c'était qu'être français? C'était sujet, être sujet du roi de France. Donc personne se grattait pour savoir s'il y avait une identité nationale. On n'avait pas besoin, puisqu'on était comme ça. On était sujet du roi de France, et n'importe qui pouvait être sujet du roi de France, hein, même s'il venait... vous coupez la tête du roi, hein, et puis vous supprimez cette définition par le sujet, par le monarque, hein, du royaume. À ce moment-là, vous êtes, et c'est là, c'est le moment où arrive le mot nation, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui sont là, et rien ne les réunit, si ce n'est qu'ils sont là ensemble. Hein. Et à ce moment-là, c'est vrai pour tout ce qu'on appelle le mouvement de nationalité, tout le 19e a commencé à inventer des origines, alors que vous savez, c'était le Volksgeist, etc., etc. Hein. On cherchait le peuple, et au plus profond des peuples, on allait chercher des vieilles légendes, des mythes, et quand on n'en trouvait pas, en général, on n'en trouvait pas, on les inventait, hein, etc. Donc vous avez tout ce qu'on appelle l'invention des traditions, le fameux livre. Hein. Donc en fait, vous avez... Je pense comme en Argentine, hein, vous avez en fait la création de la nation qui est postérieure à la création de l'État. Parce que, et moi je trouve que ce n'est pas la peine de faire des fictions. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le courage politique de voilà, on fait un État, hein, on décide que telle ou telle ou telle loi sont bonnes, hein, et on regarde vers l'avenir et on ne cherche pas des exemples gaulois, romains, machin truc, hein. Voilà, c'est tout. Mais
bon. Ça s'est fait il n'y a pas longtemps. Ça s'est fait avec l'Afrique du Sud. Ouais. Hein, le Rainbow People, ça s'est fait comme ça. Mm-hmm. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que c'est un exemple si passionnant.
Oui.
Et peut-être l'Europe peut devenir ça aussi.
Mais c'est pas impossible. Enfin, ça serait intéressant de penser sur ce modèle-là. Bon, merci. Je crois qu'on va arrêter là. Merci beaucoup.